Radio Foot International.
Olivier Pron.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Radio Foot International. J-1 avant le retour de la dame, vite, profitons-en pour dire tout sur tout. J-2 notamment avant la finale de la Ligue des Champions, direction Madrid. Donc, première partie entièrement consacrée au grand rendez-vous de Milan, samedi 18h45, temps universel, un derby madrilène, vous le savez, le Real face à l'Atlético, deux clubs qui n'ont rien gagné depuis 2 ans et qui considèrent que cela ne peut plus durer. Meringue contre Matlas. Quelle ambiance dans la capitale espagnole pour qui bat le cœur des madrilènes. La correspondante de Radio France, Marie-Hélène Ballesteros, sera avec nous pour en parler dans quelques minutes. L'occasion forcément aussi de se demander mais comment diable le football espagnol fait-il pour autant briller sur la scène continentale cette année. Ils auront tout raflé en attendant l'Euro pour la sélection. L'Euro justement, J-15, cette fois avant le début du tournoi continental, dont l'Espagne est double tenante du titre. Mais le 10 juin prochain au Stade de France, c'est la France qui, la première, entrera en piste. Ce sera face à la Roumanie. Si les Bleus s'apprêtent à tester leur nouvelle défense lundi à Nantes face au Cameroun, les Roumains, eux, se sont étalonnés hier face à la RDC. Un nul un partout qui n'a pas franchement convaincu. Troisième sujet, la FIFA. L'occasion donc de revenir parce que demain, cela fera... Alors là, on est à J+1 an pour rester dans la thématique. Cela fera donc 1 an demain que les policiers suisses et américains s'invitaient dans les hôtels des officiels de la haute instance du foot mondial. Celle-ci allait connaître la plus grave crise de son histoire. Alors, où en est-on 1 an après ? Blatter et Platini ne sont plus là, mais pour autant, est-ce que tout va mieux ? Qu'est-ce qui a changé ? Nos invités, David Lortelari, bonjour David.
Bonjour Olivier, bonjour à tous.
Naïm Magnol est là aussi.
Salut Olivier, salut à tous.
Jean-Philippe Bouchard, parce qu'il nous faut toujours un journaliste de l'équipe, c'est dans le contrat.
Bonjour Olivier, vous n'êtes pas à Roland-Garros aujourd'hui ?
Demain, la dame rentre, je prends mes quartiers d'été. Il y a le réfé, on va parler Espagne, forcément bon, le réfé
est
parmi
là.
Nous. Il bonjour. Est là, de retour, Ploquin G, Bessière JP sont là aussi, alors on peut y aller. Bon, bah allez, hein, faut y aller. La C1, c'est demain, enfin, après-demain, samedi, 18h45 TU à Milan. Mais ce sera aussi sans doute demain dans le Café des Sports, puisque la patronne du comptoir sera de retour. Et qu'il faut bien le dire, cette finale de Ligue des Champions, c'est quand même le rendez-vous le plus attendu de la semaine, voire du mois. Certains vous diraient même de l'année, de la saison. C'est vrai, messieurs ? Qu'est-ce que vous en pensez, Naïm, si je dis que c'est le rendez-vous de la saison ?
Ah bah,
c'est trop. C'est...
Non, pas forcément. C'est un des rendez-vous de la saison qu'on attend. Et cette année, avec l'Atlético et le Real, on va avoir une belle affiche, deux oppositions de style, un derby 2 ans après, entre une équipe qui devait strictement rien gagner et qui est pas loin d'en gagner une 11e, avec Zidane, et puis l'Atlético qui est, avec le Bayern, la meilleure équipe d'Europe cette saison. Donc non, moi je trouve que c'est un rendez-vous qu'on attend en tout cas depuis très longtemps.
Le rendez-vous de la saison pour vous, David Lortelari ?
Oui, nécessairement, parce qu'on n'aurait pas, par le passé, on n'aurait pas craché sur une finale entre deux clubs de Milan, par exemple, entre le Milan AC et l'Inter. On n'aurait pas craché non plus sur une finale entre deux clubs de Londres. Donc le fait que ce soit la finale de la Coupe de Madrid, c'est pas forcément une tare ni un problème. Ça va être une confrontation entre deux styles, entre deux équipes complètement différentes. Et oui, forcément, c'est une réjouissance.
Jean-Philippe Bouchard, vous avez bloqué votre soirée ?
De toute façon, oui, c'est forcément c'est un des rendez-vous, mais je suis pas sûr que pour moi c'est pas le rendez-vous de la saison parce que d'abord il y a un Euro en France avec on espère qu'il va quand même être sympa et que la finale nous concernera. Mais en plus on l'a, c'est pas une première, c'est un peu déjà vu, donc voilà. Et puis le Real est une équipe qui nous a un peu déçus quand même cette saison, même si elle s'est un peu reprise. Enfin, elle a surtout profité de l'effondrement soudain et inexpliqué du Barça, mais bon, c'est pas, ça pourrait être un peu plus sexy, voilà. Donc c'est évidemment un des grands rendez-vous de l'année. Pour moi, c'est pas forcément le rendez-vous de l'année.
Pour le réfé, bah vous, on l'a compris, il n'y a pas le Barcelone, donc vous serez à la piscine.
Ah non, je vais regarder ce match, mais je trouve qu'il y a quelque chose. Vous l'avez dit d'ailleurs, hein, aucune de ces deux équipes n'a rien gagné depuis 2014, donc. Normalement, c'est la Ligue des Champions. Là, en l'occurrence, c'est la finale de la Ligue des Non-Champions cette année, puisque les deux équipes sont restées quand même sur leur fin sur les compétitions nationales. Et je pense que, malheureusement, les trois meilleures équipes européennes du moment, qui sont Barcelone, le Bayern et la Juventus, ne sont pas à ce rendez-vous. Donc, quelque part, C'est une finale étrange.
On est en train de me dire que le standard saute, le nombre d'appels d'auditeurs mécontents de ce que vient de dire le réfé par rapport au Madrilène.
Faut regarder le contexte. T'as quand même le Real Madrid au mois de décembre. Si on te dit qu'ils vont jouer le titre jusqu'à la dernière journée et qu'ils font une finale de Ligue des Champions, personne n'y croit. Zidane, il est en poste depuis 6 mois. On a retrouvé un vrai Ronaldo. Benzema, sur qui tout le monde crache depuis cette affaire-là, est quand même pas loin de devenir encore champion d'Europe. De l'autre côté, t'as l'Atlético avec Simeone, qui est juste le meilleur entraîneur de l'année, une équipe avec une gueule, un style, Griezmann qui est peut-être le meilleur joueur avec Messi et Ronaldo de la saison qui vont s'affronter. Ouais, bon, ils sont pas champions, c'est pas sexy,
enfin,
ça a déjà eu lieu.
Si on regarde le parcours du Real Madrid, quand même ils ont une chance.
On va y revenir.
Ils ont une chance pas possible.
On va rentrer dans le détail.
Wolfsburg, la Roma, je veux bien. Rappelez-vous ce qu'était le Real il y a 6 mois.
Je vous propose que nous rentrions dans le...
Ils étaient troisième et ils avaient 4 ou 5 points de retard sur le Barça. Ça, c'était pas non plus...
Dans le jeu, t'étais quand même très loin de te dire qu'ils allaient faire une Ligue des Champions.
On appelle la dame,
hein. Olivier. Ouais, je dis stop. Je dis écoutons le vieux sage qui est aujourd'hui Raoul, qui vous explique, lui, pourquoi cette finale, c'est quand même un grand, grand moment. Et après, on rentre dans le détail. C'est moi qui décide.
Ça va être une grande fête du football espagnol et de la Liga. Avoir deux équipes en finale de Ligue des Champions dans la meilleure compétition de clubs au monde, on peut s'attendre à un super match. Avant, pendant et après le match, ça va être une grande soirée de foot. Ça va être un grand match plein d'émotions et je suis certain que les gens vont adorer. On verra ce qui se passe. Bien sûr, de mon point de vue, je préfère une victoire du Real Madrid. Mais l'Atlético fait des choses incroyables en ce moment. Ils ont sorti 2 grosses équipes, donc ça va être une finale équilibrée.
Ah, une finale équilibrée. Je donne quelques données et après on débat. 10 titres d'un côté, tout à l'heure Naïm l'a rappelé, 2 finales de l'autre, 74-2014. Est-ce que l'expérience peut jouer? Est-ce que ça peut rentrer en ligne de compte? Le précédent de 2014, justement, on se souvient que l'Atlético aurait dû gagner, hein, presque à quelques secondes près, l'égalisation de Ramos, si mes souvenirs sont bons. Puis ensuite, il craque en prolongation, ça fait 4-1 à l'arrivée. Et puis le parcours, pour qu'on ait bien les choses en tête, c'est vrai que franchement, celui du Real, la Roma, Wolfsburg, Manchester City, pour l'Atlético, c'est quand même un peu plus musclé avec le Barça et le Bayern. Une fois qu'on a toutes ces données, qui ouvre le bal? Qui peut se servir de ces données pour donner éventuellement une tendance, un favori? Comme le dit Raoul, ça va être très équilibré.
Que ce soit équilibré, oui, on va pas s'attendre à 6-0. Après, l'Atlético, pour moi, est franchement favori. D'abord, de par son parcours, il a quand même sorti et le Real et le Bayern. Je trouve que dans le jeu, il y a une identité et un style qui est quand même beaucoup plus affirmé du côté de l'Atlético. Ils ont la réussite, puis ils sont surtout sur une dynamique face au Real qui leur est largement positive. Ils perdent plus depuis 3 ans contre eux. Ils ont trouvé la clé, ils ont trouvé le moyen d'y arriver. Je pense que l'Atlético, au regard de l'année, même si le Real finit bien, au regard de la saison, l'Atlético est favori.
David.
Oui, mais on a un match là qui est un peu isolé. On n'est plus dans le rythme on joue tous les 3 jours, on est dans une espèce
de... 15 jours, effectivement, on le disait avec le réfé ce matin. 15 jours que les deux équipes n'ont pas joué. Alors, en même temps, pour l'Atlético, c'est pas une mauvaise nouvelle, parce qu'on les sentait quand même bien usés.
Non, mais le Real a quand même aussi, on a cité certains joueurs, on a oublié d'en citer un autre qui est Gareth Bale, qui peut-être aussi sera l'un des détonateurs, l'un des joueurs essentiels, décisifs d'une finale comme ça. Je suis d'accord évidemment avec Naïm sur le contenu de la saison, sur l'assise, sur l'entraîneur, sur le style, sur la tactique, mais le Real me fait peur, moi.
En plus, il ne faut pas oublier qu'il y a quand même pour la quasi-totalité des joueurs qui seront sur le terrain, enfin pas la totalité, mais quand même beaucoup, la perspective de l'Euro. C'est toujours compliqué de gérer un match aussi important avec autant d'enjeux en sachant qu'on est attendu dans une compétition
dès le lendemain d'ailleurs, pour
rejoindre une sélection et qu'on n'aura qu'une semaine de préparation. La blessure ou même la bourde, quoi, l'erreur qui fait que le joueur va pas dormir pendant quelques temps et perdre un peu en confiance, ça c'est une menace. Sur ce match.
Les listes définitives sont données 3 jours plus tard, hein, le 31, si mes souvenirs sont bons.
Qu'est-ce qui a vraiment changé cette année au Real? Entre la première partie de saison sous Benitez et la deuxième sous Zidane, c'est Cristiano Ronaldo qui a retrouvé un vrai niveau, qui est décisif.
51 buts cette saison, 35 en Liga, 16
qui est
décisif, en Ligue des Champions.
Qui est décisif contre Wolfsburg en quart de finale, qui est décisif contre la Roma en demi. C'est lui qui a porté le Real sur la deuxième partie de saison. Alors on parle de Bale, c'est bien, mais le milieu de terrain...
Bale, c'est parce qu'il a fait une bonne fin de saison.
Modric et Kroos ont quand même un déchet technique cette année qui ne leur ressemble pas. La défense du Real n'est pas bonne, en tout cas beaucoup moins que celle de l'Atlético Madrid. Que le Real a une carte à jouer parce que c'est un club expérimenté, qu'une finale c'est particulier, que Ronaldo soit un très grand joueur, je veux bien. Sur le contenu, sur l'homogénéité, Tout plaide en faveur, en tout cas, de l'Atlético.
L'Atlético mérite, au sens...
Mais oui, je suis d'accord. Oui,
méritant, si c'était des prix de fin de, d'année scolaire, évidemment, le prix irait à l'Atlético. Après, c'est un match de foot, ça reste injuste.
On a un peu l'impression, Réfé, on a d'un côté l'équipe d'une star, Ronaldo, même si, bon, c'est le Real. Et puis en face, la star, c'est l'équipe, l'Atlético de Madrid.
Oui, un peu de ça. C'est vrai que l'Atlético a un groupe beaucoup plus solide que le Real. Cela dit, le Real a
un esprit d'équipe aussi bien plus solide.
Il en a plusieurs. C'est ça qui fait sa force. Moi, je vois plutôt le Real gagner parce que je pense que cette année, le Real a une chance inouïe et que ça devrait continuer. C'est pas le mérite qui fait le champion, d'ailleurs.
C'est la baraka.
D'ailleurs, si c'était le mérite, on aurait une autre finale, sans doute aujourd'hui. Donc,
avec le Barça, peut-être, non ?
Sans doute.
Non, vous n'iriez pas jusque-là.
Ce qui a changé pour le Real, l'équipe d'une star, oui, c'est vrai, Ronaldo est reparti sur le bon pied après l'hiver. Mais il y a deux stars. Il y a quand même l'arrivée de Zidane, finalement. Oui. C'est pas tant sur le jeu ou sur le contenu, parce que
quelle arrivée ce serait bon. Mais c'est s'il gagnait la Ligue des Champions.
Je pense que sa présence médiatique et son aura de star a enlevé beaucoup de pression au reste de l'équipe. Ça a eu cet effet-là au moins, c'est-à-dire que les conférences de presse à Madrid, c'est Zidane qui, alors que Benitez, c'était tout le monde lui en voulait.
On a deux entraîneurs incroyables, différemment.
Et le fait que Zidane arrive, il a aspiré la pression médiatique sur lui, et je pense que ça a libéré une bonne partie de...
Très rapidement, parce que quelqu'un nous attend justement en direct de Madrid.
Ça n'est même pas que son aura, j'ai l'impression que c'est même plus que son aura, c'est ça, le fait qu'il ait endossé le costume carrément activement, c'est-à-dire qu'il participe activement, le discours, il a endossé le costume, il est actif, c'est même plus que sa simple aura, effectivement.
Oui, on était en train de me parler de cette femme qui nous attend. Parce que si Annie Gastier n'est pas là, on féminise quand même cette émission et on a trouvé un bon moyen en rejoignant Madrid. Parce que c'est bien, on en parle, nous, on parle football, nous, les gars, là, ici. Mais après tout, qu'en dit la ville? Parce que Madrid, ça doit quand même être particulier. La finale, elle se passe à Milan. Mais deux clubs d'une même ville, qui se retrouvent en finale de la plus grande, de la reine des compétitions de clubs. Eh bien, Marie-Hélène Ballesteros, vous êtes avec nous. Vous êtes la correspondante de Radio France. Bonjour.
Bonjour.
Il fait bon à Madrid en ce moment? Ça sent le foot ou finalement pas tant que ça?
Ça sent le foot comme d'habitude. Et comme vous le disiez, c'est vraiment une grande fête. Comme le disait d'ailleurs tout à l'heure Raoul, c'est une grande soirée de foot qui nous attend, une grande fiesta du foot espagnol. Et c'est vrai qu'ils sont très fiers ici, ces Madrilènes, car deux ans après Lisbonne, il y a quand même de grandes équipes, les deux grandes équipes de la capitale qui se retrouvent en finale de la Ligue des Champions. Donc vraiment une très grande fierté et une très grande envie de faire la fête ici.
Et alors, cette capitale madrilène, elle est plutôt merengue ou colchoneros?
Alors on peut dire que c'est vraiment très partagé à Madrid. Le Real aspire à décrocher son 11e titre européen, tandis que l'Atlético, eh bien, n'a jamais remporté cette Ligue des Champions. Alors c'est vrai que c'est un peu sur le papier, on peut dire que c'est un peu David contre Goliath, mais sur le terrain, eh bien, c'est vrai que cette saison, c'est plutôt l'Atlético qui semble plus en forme, comme vous le disiez tout à l'heure, et qui pourrait enfin l'emporter. Alors ici à Madrid, on peut dire que le sentiment est très partagé. Alors qui va l'emporter, ce n'est pas simple. En tout cas, quand on parle de revanche, on parle souvent de revanche à Simeone, est-ce qu'ils vont prendre leur revanche deux ans après Lisbonne? Eux, ils parlent de nouvelles opportunités, ils veulent continuer à écrire l'histoire, et c'est vrai qu'ils pourraient créer la surprise, parce qu'ils ont fait vraiment une très très belle saison. Donc encore une fois, sentiment très partagé, en tout cas très très grande envie de faire la fête ici et de célébrer la victoire de toute façon d'un club madrilène.
Donc on en entend parler un petit peu partout dans la ville. Est-ce que pour autant il y a des choses prévues pour tous ceux qui ne se rendront pas à Milan? Des écrans géants, des points de rendez-vous pour samedi?
Complètement. Alors chacun fait déjà ses préparatifs. Alors vous allez pouvoir le voir bien sûr dans plein de bars à travers la capitale, à la maison, tranquillement, entre amis, en famille. Alors pour les supporters colchoneros et merengues qui ne savent pas où passer cette soirée, ils n'ont que l'embarras du choix. Par exemple, la presse espagnole revient ces jours-ci sur plein de bonnes adresses, comme le Grand Casino de Madrid, ou bien un bar à bière très apprécié des fans de foot ici à Madrid, dans le centre de la capitale, qui s'appelle la Cervería. Galería Deportiva, ou encore mieux pour les merengues, eh bien, il y a le Stade Bernabéu, bien sûr, avec plusieurs écrans géants qui vont être installés samedi. Les socios pourront assister gratuitement. Quant aux colchoneros, contrairement à la finale de Lisbonne, eh bien, cette fois-ci, ils ne pourront pas la vivre dans leur stade, le Vicente Calderón, car il y aura un concert dans quelques jours de Paul McCartney là-bas, donc ils ne pourront pas aller à Calderón, mais les plus chanceux pourront se rendre dans une salle de spectacle qui a été louée pour l'occasion, sans oublier bien sûr eh bien, toutes les peñas de l'Atlético et du Real, qui vont accueillir, comme d'habitude, leurs socios.
Ouais, en ce qui me concerne, je serais allé écouter Paul McCartney, je suis désolé. Je l'avoue, je me flagellerai en sortant de l'émission. Marie-Hélène, un dernier mot, est-ce qu'on peut craindre des débordements? Est-ce que ce sont deux groupes de supporters qui peuvent... est-ce que ça peut dégénérer? Est-ce que ça peut être moins sympa que ce qu'on en dit?
Ça peut dégénérer, mais généralement, ils sont quand même assez calmes, les supporters madrilènes, dans l'ensemble. Donc, généralement, c'est vrai qu'il y a un fort dispositif qui a été déployé et qui va être déployé, justement, juste après le match et avant le match. C'est-à-dire que après la fin du match, vous savez que les supporters de l'Atlético et du Real ont l'habitude de célébrer leur victoire dans deux endroits emblématiques de la capitale madrilène. Il y a deux fontaines qui sont situées en plein centre-ville, à moins de 500 mètres l'une de l'autre. C'est là que viennent célébrer donc les victoires les deux grands clubs madrilènes. Alors d'un côté, il y a Neptune, c'est le lieu de pèlerinage des colchoneros, et puis la place Cibeles, qui est située juste devant la mairie de Madrid, la déesse Cibeles qui est adulée par les supporters du Real Madrid. Et comme je vous le disais, donc un fort dispositif policier de toute façon a été mis en place pour l'occasion. Et en cas de victoire du Real, sachez que les joueurs comptent rentrer de Milan au plus vite pour aller célébrer directement la victoire à Cibeles avec leurs supporters. Et si c'est plutôt l'Atlético qui l'emporte, eh bien les supporters colchoneros devront attendre dimanche pour faire la fiesta avec toute l'équipe de Simeone sur la place de Neptune.
Marie-Hélène, vous étiez notre déesse à nous. Merci. On vous souhaite une belle soirée samedi du côté de Madrid, parce que vous allez travailler, c'est sûr, et vous relaterez ceci donc pour Radio France. Merci encore une fois et à très vite.
Bonne soirée.
Le foot espagnol, on l'a dit, hein, ça va être la troisième victoire de rang d'un club espagnol, puisque le Barça l'avait remporté l'an passé. C'est une hégémonie véritable. À quoi c'est dû, nos confrères de l'équipe, vos amis, Jean-Philippe Bouchard en parle ce matin. C'est vrai que c'est quand même incroyable. On rappelle en plus que Séville, vainqueur de l'Europa League, c'est 3 sur 3, ce sont les 3 dernières années. Je disais tout à l'heure, la stat est pas très claire. Depuis 10 ans, sur 22 Coupes d'Europe, 12 ou 13 ont été remportées par les Espagnols. Rapidement, à quoi c'est dû cette hégémonie? Enfin, rapidement, si on doit déborder dans la deuxième partie, on débordera.
C'est dû d'une part au fait que c'est le meilleur football d'Europe aujourd'hui, où les entraîneurs sont quasiment les meilleurs, les équipes aussi. Deuxièmement, l'effondrement de la concurrence. Aujourd'hui, les seules équipes capables de tenir la dragée haute, c'était les Anglais. L'ont fait jusqu'à la fin des années 2000. Et puis, début 2010, se sont effondrés. Et aujourd'hui, mis à part le Bayern, qui a fait 3 finales depuis 2010, aucune équipe n'est capable de concurrencer le Barça, le Real, et aujourd'hui l'Atlético.
Oui, c'est vrai, quand je dis que les Espagnols, on n'est pas d'accord dans l'équipe avec 12 ou 13, mais enfin, c'est énorme. Les Anglais en sont à 3, hein, deux Ligues des Champions en 10 ans et une Ligue Europa. Les Italiens, deux Ligue des Champions, et les Allemands, eh bien, une Ligue des Champions. C'est vrai que ça ne fait pas beaucoup par rapport à l'énormité du palmarès espagnol. Qu'est-ce qu'ils font, les Allemands, par rapport aux Espagnols? Qu'est-ce qu'ils ont en moins?
C'est le modèle, hein, l'Espagne en Allemagne depuis quelques années, et le modèle n'est pas forcément complètement au niveau, sur l'ensemble des clubs en tout cas, n'est pas forcément complètement au niveau de ce qui se fait en Espagne. Je suis d'accord évidemment avec Naïm, c'est une suprématie technique avant tout, tactique peut-être aussi, ça se discute davantage. Et le Bayern, qui est l'un des rares rivaux récemment, a complètement copié, avec Guardiola en particulier, a complètement copié les qualités du football espagnol. Donc celui-ci a de beaux jours devant lui encore, je pense.
Je crois qu'il y a un petit paradoxe dans cette suprématie qu'il faut lever, c'est le niveau du championnat espagnol, qui est excellent, mais qui est sans doute pas d'une façon globale aussi homogène, on va dire, que la Première Ligue ou la Bundesliga.
Ah bon ?
Ce que disent la plupart des joueurs qui ont joué en Première Ligue, c'est que tous les matchs sont très difficiles en Première Ligue, très très difficiles. Et
en Espagne, il y en a quelques-uns de plus simples.
Et que, voilà.
On va y revenir, on va y revenir, parce que
c'est un peu plus simple pour les meilleurs.
C'est l'heure de la pause, mais vous attaquerez la deuxième partie, Jean-Philippe, c'est promis, et je sens qu'il y a de quoi parler en face aussi. On se retrouve dans 3 minutes et 30 secondes, ne bougez pas.
Appel sur l'actualité.
Radio Foot International.
Olivier Prond.
La deuxième partie de Radio Foot, merci d'être resté avec nous. Vous n'en avez pas marre du foot espagnol, on l'espère, parce qu'on va en reparler. Merci de nous rejoindre. Si vous avez raté la première partie, vous allez tout comprendre normalement assez vite en ce début de deuxième partie. Sont toujours avec nous Naïm Meuniol, David Lortolari, Jean-Philippe Bouchard et le Réfé. C'est comme ça. Alors, on parlait de l'hégémonie du football espagnol. On ne peut pas dire autre chose, puisqu'ils vont encore cette année rafler les deux Coupes d'Europe. Vous nous disiez, Naïm, pendant la pause, parce que j'avais donné des statistiques, hein, ça fera donc 13 Coupes d'Europe sur 22 remportées par les Espagnols samedi. Vous avez encore mieux.
Oui, en Ligue Europa depuis 2001, 6 clubs espagnols ont été en finale. Et sur les dernières années, les deux clubs qui ne l'ont pas gagné, les deux clubs non espagnols qui ne l'ont pas gagné, il y avait Dniepropetrovsk et Chelsea. Dniepropetrovsk avec Juan de Ramos, Chelsea avec Benitez.
L'Espagne est partout.
Et c'est pas une coïncidence.
Quand c'est pas le club qui gagne en finale, c'est l'entraîneur.
C'est pas une coïncidence. C'est là où je suis pas d'accord avec ce que disait Jean-Philippe sur le niveau. Alors, c'est peut-être plus compliqué en Angleterre.
C'est pas une question
parce que...
de niveau, c'est une question
d'intensité. Oui, je pense que l'intensité, le rythme en Angleterre soit plus élevé, je sais. C'est compliqué, même pour des grosses équipes, d'aller jouer à Stoke, à West Bromwich, ce que vous voulez. Ce que moi, par contre, je veux dire, c'est qu'il y a un paradoxe, c'est qu'en Angleterre, au moment où la puissance médiatique marketing de la Première Ligue a complètement explosé, le niveau de jeu s'est affaibli. Arsenal n'existe pas, Manchester United plus, Liverpool non plus, Chelsea et Manchester City, quand vous regardez depuis des années les investissements qu'il y a, c'est quand même extrêmement pauvre sur la scène européenne. Alors que le niveau espagnol, peut-être que c'est plus facile pour le Real et le Barça d'aller jouer à Séville ou à Villarreal, mais si vous regardez, il y a un niveau de jeu, une politique de jeu, une tactique qui fait que ces clubs-là sont plus performants que les autres en Coupe d'Europe. Parce qu'on a toujours maintenu une régularité et un niveau. Les Anglais, ils ont explosé financièrement, médiatiquement, marketingement. Si vous regardez le championnat anglais aujourd'hui, le niveau de jeu est quand même considérablement affaibli. Ne serait-ce qu'il y a encore 5-6 ans où vous aviez trois clubs anglais en demi-finale.
J'ajouterais que l'argent qui a arrosé la Première Ligue ces dernières années et qui va continuer, paradoxalement aussi, a nivelé le niveau. C'est-à-dire que
vous vous rendez compte que Aston Villa, c'est Jean-Pierre Messière qui nous donnait ces chiffres ce matin, Aston Villa qui est relégué en Championship, en deuxième division, va toucher 92 millions d'euros de droits télé.
À un moment,
il serait troisième budget français avec
à
ça.
À un moment, les sommes en jeu finalement interviennent plus, c'est-à-dire que le joueur, il va faire comme dit Morientes dans l'équipe ce matin, ce qu'il veut, c'est quand même gagner des titres et à un moment son choix, il va se porter sur les clubs qui
peuvent
sont
gagner
le plus
des titres,
susceptibles de gagner des
donc
titres.
Les Espagnols.
Et la victoire appelant la victoire, il va aller se porter vers les Espagnols. À eux de ne pas se tromper, ce qu'ils font très bien, dans le choix du joueur. Et finalement, le tout haut du panier, les très 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 bons joueurs, ils vont en Espagne plutôt, dans les 4 très gros clubs espagnols, plutôt que dans les 12 clubs
anglais. On va dire qu'il y a
12
clubs très gros clubs espagnols, 3 si l'on ajoute l'Atlético, mais derrière, il y en a 5 ou 6 qui peuvent aller titiller. Et donc, ça rend quand même le championnat intéressant. Juste un mot du Réfé Naïm.
Oui. Ben non, parce qu'il ne faut pas oublier, on parle Ligue des Champions, Ligue Europa, mais en fait, ce n'est pas des ligues, c'est des coupes essentiellement, puisqu'on arrive à partir des 8e de finale à des confrontations directes. Et on sait qu'en coupe, ce n'est pas forcément l'équipe la plus forte sur le papier qui gagne, mais c'est l'équipe qui en a le plus envie, qui a le mental le plus fort, qui a vraiment pour qui c'est une question de vie ou mort. Pour les clubs anglais, c'est vrai, on l'a dit, ils ont tellement d'argent par ailleurs qu'une élimination prématurée en Ligue des Champions, ça n'a pas beaucoup d'incidence sur son train de vie. Tandis que pour les clubs espagnols, pour le Barça, pour l'Atlético, etc., ça peut avoir d'importantes conséquences parce que leurs revenus sont fortement liés. Donc ça donne d'autant plus d'envie. Et les joueurs qui vont là-bas savent qu'ils vont être dans des clubs qui vont tout faire pour gagner.
C'est dommage qu'en France, on n'ait pas...
Et encore une fois, on est aussi dans un championnat où l'issue est beaucoup plus certaine qu'en Angleterre.
C'est vrai qu'il y a aussi une question d'état d'esprit. Nous, en France, la Ligue Europa, on ne la joue pas. Les Italiens ne la jouent pas beaucoup plus non plus. Voilà. Les Anglais, il y a aussi un autre facteur, c'est que physiquement, ils n'en peuvent plus. Ça fait plusieurs saisons que physiquement, ils n'y arrivent plus. Même les grosses équipes enchaînées, le Boxing Day, la Coupe d'Europe, les Coupes Nationales, tu sens que physiquement, les mecs, ils craquent. Et c'est un état d'esprit, c'est que quand on parlait que l'issue est beaucoup plus certaine, aujourd'hui, des équipes comme le FC Séville, comme Villarreal, comme l'Atlético Madrid, comme l'Athletic Bilbao, la seule chose qui est à leur portée, c'est la Coupe d'Europe. Parce que le championnat, il est réglé. La Coupe du Roi, quasiment pareil à chaque fois. Donc aujourd'hui, les mecs, quand ils abordent la compétition, c'est pour la gagner. Alors que du côté des Anglais, du côté des Français, des Italiens, on cherche à faire le meilleur parcours possible. D'ailleurs, la plupart arrivés sortis des poules te disent maintenant c'est du bonus, machin. Tu sens que c'est pas du tout la même manière d'aborder la compétition. Et ça, à un moment donné, ça compte.
Puis il y a une donnée qui est marginal, mais qui doit avoir un petit impact aussi, tout bêtement, mais c'est le climat. C'est que les matchs décisifs en Ligue des Champions, bah, ils sont au sortir de l'hiver. Et les clubs anglais, les clubs allemands, les clubs français, ils viennent de se taper 3 à 4 mois de terrain lourd, d'entraînement sur terrain lourd, qui bien souvent engendre des blessures. En Espagne, il fait quand même plus sec. Il gèle moins souvent. Et peut-être qu'on laisse
profiter à la France.
Tout
aussi.
Petit peu moins de plumes.
Particulièrement à Séville, me suggère Guillaume Ploquin. Il n'a pas tort, Séville, on le rappelle. Triple tenant du titre de la Ligue Europa. Mon petit doigt me dit, si elle est à l'écoute, et elle n'a pas besoin d'être à l'écoute, que demain, ne vous inquiétez pas, chers auditeurs, on va reparler, bien sûr, de cette finale de Ligue des Champions. On aurait pu faire toute la semaine dessus, mais nous, on décide de s'arrêter là. J-15, après le J-1, le J-2 pour la finale, eh bien, le J-15 pour l'Euro, 10 juin, 10 juillet, match d'ouverture, France-Roumanie au Stade de France. Les Bleus préparent leur premier match de préparation. Ce sera lundi à Nantes. France-Camonde, nous y serons. Enfin, RFI, il sera, bien sûr, un match à suivre en direct et en intégralité aux commentaires Christophe Jousset et Eric Chorin. Il y aura même du Radio Foot lundi en direct de Nantes.
Il y aura même une édition spéciale le matin.
Rendez-vous compte, c'est l'affiche France-Camonde. Vous en pensez quoi, tiens, d'ailleurs, de ce match de préparation. On va parler dans quelques secondes de Roumanie-RDC. C'est marrant, c'est ces deux équipes qui vont s'affronter lors du match d'ouverture de l'Euro affrontent des équipes africaines. Bon, c'est plus du gala, c'est pas vraiment de la préparation. Autant avant la Coupe du Monde, on a coutume de voir des matchs de préparation face à des équipes qui ont un football qui ressemble aux futurs adversaires. Là, on peut pas tout à fait dire que RDC d'un côté ou Cameroun de l'autre. Voilà,
Sauf que c'est des équipes qui ont l'avantage d'avoir un certain impact physique. Premièrement, puis deuxièmement, la plupart des joueurs évoluent en Europe. Alors pas forcément en France, mais en Europe. Donc jouer aujourd'hui le Cameroun, la RDC, le Sénégal ou même l'Algérie ou le Maroc, c'est pas plus bête dans la préparation que d'affronter la Géorgie, l'Écosse ou la Suisse. Non, je trouve que ça reste globalement, non, ça reste cohérent en tout cas. Moi, ça me choque pas.
Il y a la conséquence du passage à 24 équipes en phase finale. Du coup, en Europe, les équipes de bon niveau disponibles pour faire de la préparation qui ne disputeront pas l'Euro ne sont pas si nombreuses que ça.
La France, on le rappelle, jouera donc face au Cameroun lundi, puis quelques jours plus tard à Metz face à l'Écosse. Un match France-Cameroun, c'est quelque chose que vous attendez? On est tous d'accord pour dire que samedi, on sera devant notre téléviseur pour voir la finale de la Ligue des Champions, le derby de Madrid. Lundi, France-Cameroun, ça vous chauffe?
Ah oui, moi ça me chauffe bien, oui, parce que d'abord c'est un match de préparation de l'équipe de France, on est quand même à 2 semaines de l'Euro. Deuxièmement, le Cameroun, il y a quand même des ponts entre les joueurs camerounais et le championnat de France. C'est un pays qu'on aime beaucoup, avec des joueurs qui pour la plupart évoluent chez nous ou ont évolué chez nous. Donc moi je suis très content qu'on les affronte et oui, je vais regarder.
Et puis ça rappelle plein de choses, plus ou moins gaies, mais on aura évidemment tous une pensée pour la famille de Marc-Vivien Fauet. Et pour Marc-Vivien Fauet, parce que la dernière fois que le Cameroun était venu chez nous, c'est de triste mémoire, c'est dit. Le France-Cameroun, vous, Jean-Philippe, ça a au moins un intérêt.
Il va avoir un grand intérêt.
Depuis le début de la semaine, on ne parle que de la défense. Ces deux matchs-là se révèlent capitaux pour préparer une nouvelle défense.
Évidemment, puisque le seul joueur qui a disputé l'intégralité des matchs avec Deschamps, en défense, c'était Varane et il sera pas là. Donc évidemment, on va se retrouver avec une nouvelle défense inédite. Et même si ça sera pas la totalité du match, même si on sait bien que les matchs de préparation, c'est des histoires de réglage, il y a beaucoup de changements, etc. Mais forcément, on voudra quand même voir comment se passe cette mise en place, parce que finalement, on va arriver à l'Euro avec des joueurs qui auront très très peu joué ensemble.
Si Deschamps n'est pas idiot sur les deux prochains matchs là de préparation,
il
aligne la même équipe, la même défense, c'est-à-dire Mangala et Koscielny, puisque de toute façon...
Au moins 40 minutes, quoi.
Moi je pense même plus, c'est un tel manque d'automatisme, peu importe le mec qui sera aligné avec Koscielny, t'as un tel manque d'automatisme que tu peux même presque même pas te permettre de faire tourner sur une mi-temps, donc t'auras Mangala, Koscielny dans l'axe, Samir Evra sur les côtés, et puis basta.
Allez, on va parler des Roumains. Hier, c'était à Côme, en Italie, joli coin, face à la RDC, la République démocratique du Congo, un partout, Stanciu à la 27e minute, Bokila égalise à la 87e. On va écouter quand même la satisfaction des Congolais, parce qu'il y avait beaucoup, beaucoup de forfaits, donc peut-être pas tant de joueurs que ça qui évoluent en Europe. Florent Ibengué était néanmoins satisfait.
Faire nul aujourd'hui contre la Roumanie, c'est signe qu'on est une équipe solide. Donc c'est une satisfaction. On a des lacunes, hein, il ne faut pas les nier, mais ça montre qu'on est sur la bonne voie. Et quand on dit qu'on a la possibilité d'aller en Coupe du Monde, il faut y croire et puis avoir envie de donner le meilleur de soi-même et de disponibiliser aussi les moyens pour que ces jeunes joueurs qui montrent, et les anciens aussi évidemment, qui montrent une belle compétitivité puissent amener des satisfactions au peuple congolais.
On rappelle, hein, pour les hommes de Florent Ibengué, ils sont premiers de leur groupe dans la course à la CAN 2017. Ils ne sont pas encore qualifiés, c'est bien parti, mais encore l'Angola, la Centrafrique notamment, peut les contrarier. Ils joueront à Madagascar dans 10 jours, le week-end du 3-4-5 juin. C'est la prochaine journée. En cas de succès à Mada, on peut penser qu'ils auront fait un très grand pas vers la CAN gabonaise. Les Roumains, hier, je ne sais pas qui a pu voir le match.
Ouais.
Naïm, il voit tout, Naïm. Mais même de la 8e division turque, ils vous en parlerait. Il n'y a pas de problème.
Des remplaçants, en plus.
C'est vrai que c'était pas terrible.
C'était pas terrible.
Des Roumains.
D'abord, il manquait la moitié de l'équipe type. C'est surtout ça. C'est que le 10 juin contre la France, t'auras la moitié des mecs qui seront pas là. Il manquait Grigor dans l'axe, Papa droite, Torgé l'attaquant, Kécherou était remplaçant aussi. Donc Stechou était un peu plus bas que prévu. Donc on n'a pas vu un grand match. La RD Congo en plus fait une prestation assez correcte. Donc les Roumains ont pas non plus été brillants. Moi j'ai été déçu de la Roumanie. On nous annonce en tout cas une équipe très regroupée, très compacte. Moi j'ai vu beaucoup d'espace et surtout beaucoup de lacunes dans le domaine aérien. Je trouvais que sur les coups de pierre était rentrant, la Roumanie était beaucoup en difficulté. Alors, même si tu n'auras pas la même défense, c'est quand même peut-être un filon à exploiter pour les Bleus. Après, pour le reste, moi, offensivement, je n'ai pas été surpris de ne pas voir les Roumains attaquer ou très peu, parce que c'était aussi le cas durant la phase préparatoire, durant la phase d'élimination. Et globalement, je n'ai pas tiré plus d'enseignements que ça de ce que je savais déjà.
David, les Roumains, un danger pour les Bleus en ouverture ?
Un danger, je dirais plutôt, c'est le premier obstacle, le premier apéritif qu'il faudra franchir. Parce que les Roumains, effectivement, Naïm le dit, dans la campagne de qualification, ont obtenu un résultat maximum, donc cette qualification avec des moyens extrêmement réduits. C'est une équipe qui a travaillé sur très recroquevillé, qui a obtenu des résultats de je veux pas dire d'anti-football, parce que c'est pas, il y a pas, non, un, pas un loin, football et un anti-football. Oui, et du coup l'équipe de France saura accumuler de la confiance si elle passe ce handicap-là dans son premier match. Si ce n'est pas le cas, ça va être assez inquiétant.
C'est pas le premier danger, c'est que c'est peut-être l'équipe, excuse-moi l'expression, la plus chiante à jouer.
Oui.
Il n'y a pas d'espace, c'est regroupé. Et en tout cas, dans le jeu, pour ceux qui ont suivi un peu les éliminatoires, c'est à mon sens beaucoup moins fort que l'Albanie.
Juste quelques mots pour terminer sur le Stanciu, le milieu de terrain du Steaua Bucarest. C'est l'arme numéro un, l'organisateur et le finisseur. Ouais.
Alors le finisseur, normalement, t'as Kécherou devant qui joue en pointe. Lui, il est plus bas sur le terrain. Au milieu, c'est un meneur de jeu, voilà, un gabarit pas très grand, assez vif, technique, qui globalement devrait pas non plus poser trop de problèmes à la défense française. Encore qu'avec quelle défense on va partir, je sais pas. Mais oui, c'est dans l'esprit l'organisateur de jeu, celui peut-être le plus dangereux, en tout cas techniquement.
Il est champion de Roumanie avec le Steaua Bucarest. On rappelle que la Roumanie jouera, elle, un deuxième match de préparation face à l'Ukraine dimanche.
Après,
dernier mot,
quand même, alors c'est toujours le prisme déformant de la télévision, mais sur ce match-là, franchement, il n'y avait pas un engagement physique très, très important. Enfin, je trouvais qu'il y avait des gestes de... pas de relâchement, mais quand même, on n'a pas senti les Roumains très, 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 très motivés, enfin, de ce que j'en ai vu. Hein. Je pense que le jour de France-Roumanie, ils seront quand même beaucoup plus là.
Bah, déjà, je pense qu'ils seront beaucoup plus privés de ballon que contre la RD Congo. Et une fois de plus, je le dis, cette équipe, même quand bien même elle poserait des problèmes défensivement, offensivement, elle a très, très peu d'armes à disposition.
Rendez-vous dans 15 jours, vous l'avez compris, le 10 juin, au Stade de France ou devant votre téléviseur.
Hors jeu. Je pouvais plus jouer au football. You're gonna be shocked.
Quand nos politiques s'agenouillent, c'est le thème de la carte du jour. Comme tous les jeudis, en partenariat avec Arte et Upian, nous revenons sur un thème fort, un des thèmes forts du web documentaire hors jeu sur les coulisses du football. Libéralisation de la prostitution durant certaines compétitions, zone d'anti-concurrence commerciale édifiée aux abords de certains stades, prise de position politique contre les mouvements populaires. Écoutez le témoignage décapant, évidemment, d'Emmanuel Petit sur le sujet.
T'aperçois que pour être à des postes importants, que ça soit Ligue, Fédération, Ministère, UEFA, FIFA, il faut surtout fermer sa gueule, ne rien dire, quoi. Il faut être très politique. Tu trouves normal que ceux qui nous dirigent aujourd'hui, ce sont des gens qui Bah, qui n'ont jamais joué au ballon, quoi, la plupart. C'est des financiers, c'est des hommes de loi. Je prends l'exemple simplement de l'Euro 2016 en France. On est à 2 milliards, un peu plus de 2 milliards d'argent public investi, 1 milliard et demi sur la rénovation des stades, en sachant que derrière, ce sont les entités privées qui vont bénéficier, alors même que les municipalités et les collectivités locales financent également avec l'argent public ces entités privées. Quand on voit les masses d'argent, les sommes véhiculées au monde du football, le contribuable n'a pas vocation à financer davantage le monde sportif professionnel. C'est indécent aujourd'hui. Ce qui est surtout indécent et scandaleux, c'est que nos politiques s'agenouillent devant ces entités-là, que ce soit l'UEFA ou la FIFA, alors qu'elles sont richissimes, en sachant que ces entités imposent un cahier des charges extrêmement scandaleux. La libéralisation de la prostitution pendant certaines compétitions, des zones d'anticoncurrence commerciale 2 km autour des stades, sur la voie publique, ça me choque considérablement. Ça me choque d'entendre Michel Platini dire, lors du Mondial brésilien, pendant la durée du Mondial, soyez gentils, ne faites pas vos manifestations. Ça me choque considérablement.
Il ne dit pas que des bêtises, hein. Emmanuel Petit, c'est clair, même s'il les dit avec ces mots. La FIFA, alors justement, parlons-en.
Non, non, rien n'a changé, tout a continué. Non, non, rien n'a changé, tout a continué.
Je suis sûr que pour certains, peut-être pour certaines, la dame, je suis sûr qu'elle connaît cette chanson. C'était
les Poppies. Et...
ouais, 1900.
79
71.
Mince,
mais c'est quand même sympa, on pourrait l'écouter. Laissez-la en fond, Guillaume Ploquin. Non, rien n'a changé. Et pourtant, Gianni Infantino, il n'y a pas si longtemps, tout fraîchement élu président de la FIFA, affirmait « la crise est finie ». La crise est finie. Et pourtant, c'est la plus grave crise que la FIFA ait jamais connue. On peut juste rappeler, le 27 mai, donc ça fera un an demain, 27 mai 2015, 7 hauts dirigeants du football international sont arrêtés à Zurich à la demande de la justice américaine. 14 personnes, dont 9 membres ou anciens membres de la FIFA, sont mises en cause. L'acte d'accusation américain parle de quelques 150 millions de dollars, 132 millions d'euros, de pots de vin et de rétrocommissions depuis les années 90, dans une procédure distincte, ouverte contre X, pour soupçon de blanchiment d'argent et gestion déloyale autour de l'attribution, cette fois, des mondiaux 2018 et 2022 à la Russie et au Qatar. La justice suisse fait procéder à des perquisitions au siège de la FIFA à Zurich. On va vous passer sur tout ce qui s'est passé depuis un an. À retenir, bien sûr, Blatter au placard et Michel Platini également écarté. Est-ce que pour autant, tout a changé comme... on pouvait l'espérer ou ce sont les poppies qui ont raison?
Non, je pense que les poppies ont raison. D'abord parce qu'il y a eu beaucoup d'effets d'annonce que les pays riches donnent aux pays pauvres. Gianni Infantino a nommé une femme secrétaire générale. Donc c'est bien, c'est du changement. On va rendre encore plus transparent les dépenses, tout ça. Mais au final, on se rend compte qu'il a quand même repris la main sur les comités et sur les organismes qui géraient les enquêtes internes. Ça déjà, c'est pas très bien vu. Et puis, deuxièmement, faut pas oublier que la justice américaine, elle n'en a pas fini parce que il y a eu des gens.
Elle devrait d'ailleurs sévir. Hein, oui, c'est annoncé dans les tout prochains jours.
Le nœud de l'histoire, de toute façon, est là. C'est les Américains qui sont en train de tout faire à la FIFA pour essayer de récupérer la Coupe du Monde 2022. Et tant qu'ils y arriveront pas, ou tant qu'ils seront pas suffisamment satisfaits, ils vont en foutre plein la gueule.
Ils n'aiment pas être battus, les Américains. Si je vous rappelle que pour les Jeux de 2024, Paris est en lice avec Los Angeles. Ouais. Si jamais Paris gagne, ça craint. Pour nous derrière,
il faut pas non plus. Enfin, on peut imaginer ça, mais il faut pas tout mélanger. L'administration fiscale américaine est une administration très puissante, et leur boulot c'est d'aller chercher de l'argent. Et or, il y en a effectivement beaucoup parce que les pots de vin ont été pour partie versés sur le territoire américain. Oui, et à la limite, c'était même pas la question des pots de vin qui les dérangeait les services fiscaux. C'est le fait que ces pots de vin n'ont pas été déclarés au fisc, et donc ils vont rechercher de l'argent de la même façon que tous les services fiscaux du monde dans des États extrêmement endettés vont aller essayer de récupérer des sous. Ils n'ont pas de point de vue moral sur ce qui se passe.
Je pense qu'on peut pas ne pas
faire de lien. Ça, c'est le problème de la justice suisse.
On peut pas ne pas faire de lien entre le fait que les Américains s'acharnent sur la FIFA et tout ce qui tourne autour et le fait qu'ils aient eu la Coupe du Monde 2022 qui leur soit passée sur le nez. Je le maintiendrai toujours. S'ils avaient eu la Coupe du Monde 2022, tu n'aurais pas la moitié des affaires qui sont en cours.
Alors, quand Gianni Infantino, encore une fois, nous dit la crise est finie, on rappelle quand même qu'il y a quelques jours, le 23 mai, on est le 26, donc il y a 3 jours, le secrétaire général par intérim, l'allemand Markus Kattner, a été renvoyé de la FIFA après qu'une enquête interne et mis à jour des manquements dans ses responsabilités financières en lien avec ses fonctions. Ça s'arrêtera jamais, en effet, ou un jour, peut-être, tout rentrera dans l'ordre.
Ce qui est un peu étonnant dans cette affaire, c'est que finalement, les têtes qui sont tombées n'étaient pas forcément directement liées aux enquêtes précises réalisées par la justice américaine. Parce que finalement, si la FIFA est tombée, c'est par le biais des quelques, on peut appeler, pieds nickelés sud-américains ou centra-américains ou nord-américains qui s'est croyé totalement à l'abri de toute poursuite et qui ont fait circuler les commissions qu'ils touchaient par des banques américaines, enfin, sans la moindre retenue. Et donc, un peu comme la fameuse histoire de la mafia de Chicago, c'est par un côté un peu inattendu que la justice américaine a pu sévir. Après, évidemment, aujourd'hui, les personnes qui ont été arrêtées sont posées devant une conjoncture qui est pas simple. Soit elles acceptent de passer le restant de leur jour en prison, soit elles acceptent de collaborer avec la justice en livrant d'autres personnes, en apportant des informations très précises. Et donc, effectivement, on peut imaginer que la justice américaine est en train de collecter d'énormes informations.
On rappelle que les trois plus hauts personnages, finalement, du foot mondial sont tombés. Sepp Blatter, qui, quelques jours après le déclenchement de cette affaire, avait été réélu, et puis ensuite, il avait démissionné. Michel Platini, dont on pensait qu'il serait son successeur légitime. Et puis Jérôme Valk, notre ancien confrère, qui était le secrétaire général. Décidément, fait pas bon être secrétaire général de la FIFA, parce que son successeur a mis lui aussi la main dans le pot de confiture. Jérôme Valk, c'est l'exemple même du type à qui c'est monté à la tête.
Ouais, avec une redistribution au marché noir de places pour la Coupe du Monde 2014, voilà, bah écoute.
Et de toute façon, c'est-à-dire que son comportement est allé jusque-là. C'est-à-dire que il a même revendu des billets, mais il a pris énormément d'argent.
C'est un système qui a été pérenne sur des décennies. C'est que, il se cache pas, il fonce honnête tout le monde. Mais oui, mais quand ça marche pendant 10, 12, 15 ans, à la fin, t'as pris l'habitude, tu vois même plus le mal où il est. Et quand on parle de Kuttner, là, qui s'est fait gauler il y a 3 jours, enfin, qui a été renvoyé il y a 3 jours, mais tant que tu prendras des solutions internes, tu peux quand même supposer que les mecs qui tous depuis un moment étaient mouillés dans X ou Y affaires. Donc ce qu'il faut aujourd'hui, si tu veux essayer de remettre les choses en ordre à la FIFA, c'est faire appel à des gens de l'extérieur. Donc là, il y a la personne qui était nommée, la sénégalaise là qui vient de l'ONU, justement. Alors je dis pas elle ou d'autres, mais que des gens qui viennent de l'extérieur puissent essayer de remettre un certain équilibre. Mais toutes les solutions internes à la FIFA, tu prends le risque que dans un avenir très proche, elles tombent, soit parce qu'elles se sont fait gauler, soit parce qu'elles ont été dénoncées, et les investigations en cours qui vont ressortir d'ici les prochains mois, les prochaines années, vont encore faire tomber d'autres personnes, c'est sûr.
Donc non, rien n'a changé, mais a priori, ça ne va pas continuer quand même.
Oui, et surtout qu'il y a des surprises. Par exemple, Blatter et Platini sont tombés sur une affaire qu'on pourrait qualifier d'une broutille par rapport au fait qui se passe au sein de la FIFA. C'est un paiement qu'on pouvait imaginer plus ou moins régulier, mais fait dans des conditions obscures, etc. C'est assez étonnant. Michel Platini n'étant même pas mis en examen, il est quand même lourdement sanctionné. Blatter encore davantage. Et donc, on peut imaginer que des petites choses puissent avoir de grosses conséquences encore pour beaucoup d'autres membres de la FIFA. Aujourd'hui, c'est concentré essentiellement sur l'Amérique du Sud, l'Amérique centrale, l'Amérique du Nord, mais d'autres continents pourraient également être à leur tour impliqués.
On peut penser que le ménage n'est pas encore fait, mais quand même, les choses vont dans le bon sens. Vous croyez qu'il y a matière à rassurer les amoureux du foot, parce que l'image, quand même, du foot a été dégradée. Il n'y a plus un dirigeant qui trouve grâce aux
L'image est déplorable. Après,
comme
dans toute institution d'importance, il y a deux sortes de personnel. Il y a les politiques, si j'ose dire, les élus, ceux qui sont nommés, et puis il y a tout le personnel administratif, les gens qui travaillent au quotidien à la FIFA, et ceux-là sont pas forcément mis en cause dans toutes ces affaires. Donc la FIFA va continuer de tourner et de travailler, et faut quand même rappeler que c'est une association.
Hein, normalement, à but non lucratif.
Oui, donc ces gens-là sont quand même... Alors, ils ont des très bons salaires en Suisse, mais ils ont quand même choisi de travailler dans une association dont le but est de promouvoir le football. Peut-être qu'ils vont s'en souvenir un petit peu, la parole étant difficile.
Je pense que la puissance de l'organisme est telle qu'on ne peut pas avoir de personnes honnêtes à sa tête. Il faut des vrais politiques pour gérer un truc comme ça. La FIFA, c'est plus fort que l'ONU. faut des politiciens, faut des types malins, vicieux, avec tout ce que ça comporte de pardon.
Bon, c'est très encourageant. Non, mais
la FIFA n'a pas de force.
On est tout à fait rassurés.
On n'a pas de force militaire, oui, heureusement, mais on va pas vous dire que ça va aller mieux, on va pas faire les bénis, oui, oui. C'est une institution qui, de toute façon, génère tellement d'argent qu'on ne peut pas l'imaginer aux mains de gens pas capables d'en faire mauvais usage, malheureusement. C'est géré par des politiques, et malheureusement, les politiques, c'est quand même rarement très honnête.
Oui, mais parce que rien que les bonus David. qui ont été encaissés par le secrétaire général par intérim là dont vous avez fait auquel vous avez fait allusion, l'allemand Kettner, et rien que ça donne le vertige. Donc après c'est une toute petite part, et ça montre aussi l'ampleur du phénomène. Je suis d'accord avec Naïm, malheureusement.
Oui, je crois que
Jacques le fataliste.
Jacques le fataliste. Mais on peut aussi voir les choses du bon côté. Ça avance. Au moins, voilà, il y a une partie du travail qui a été fait.
Il y a une chose
quand même dans le bon sens.
Il y a une chose qui a l'air quand même d'avancer, c'est que j'ai l'impression qu'il y a une solidarité entre les pays riches et les pays pauvres un peu plus accentuée qu'il y a quelques années. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, on tend un peu plus vers le développement d'actions dans des pays sous-développés qu'il y a encore quelques années. Si Gianni Infantino peut au moins servir à ça, tant mieux.
Eh bien écoutez, on va terminer sur cette note enfin positive de votre part, ça nous rassure quand même, et puis on termine en écoutant les Poppies, parce que c'est sympa, c'était un autre temps, il y a combien maintenant, 45 ans, oui dites donc, 45 ans. Merci en tout cas d'avoir été là pour cette émission, merci à Guillaume Ploquin, à Jean-Pierre Bessière d'avoir été aussi avec nous, et puis je vous le rappelle, la bonne nouvelle, pour tous ceux qui l'attendent, elle est rentrée, elle est là, elle est impatiente, elle vous retrouve demain avec toute sa bande du Café des Sports, et peut-être qu'on parlera même des mêmes choses, parce que c'est ainsi la planète football. 7 milliards.